Pluriel Gay, une émission présentée par Gérald.
Alors c'est l'émission du 13 mai qui ne sera diffusée que le 20. Voilà. C'est puisque ça marche pas l'émetteur, on n'est pas diffusé.
Nous aussi on sait prévoir des choses.
Ouais, on sait pas. Ça se trouve on nous écoute. Tant pis, de toute façon je la rediffuserai quand même si on nous écoute la semaine prochaine après tout.
Oui.
Parce que j'ai pas fait trop de buzz pour l'émission du coup.
Bah oui du coup.
Hein, j'ai même annoncé
non, t'as même mis silence radio
voilà,
en majuscule sur Facebook.
Voilà.
Là, je
donc
crois ils ont tout coupé. Hein.
Voilà. Donc voilà. Je remettrai si jamais ça marche ce soir, ce qui m'étonnerait fort. diffuserai la semaine prochaine, le 20 mai.
Très bien.
Donc, Laurence,
oui,
bonsoir. Bernardo, bonsoir.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et bienvenue à notre invité.
Bienvenue, Sébastien.
Bonsoir.
Alors, Bernardo, tout de rose vêtu.
Qu'est-ce qu'il est beau.
Magnifique. Ça lui va très bien aussi.
Ça lui va très bien, avec ses yeux bleus, ça
ouais.
Ressort.
Parfait. Donc Sébastien, on te connaît déjà ici. Tu es venu l'an dernier, c'était à l'occasion, enfin c'était pour le 1er décembre en fait, la journée mondiale de lutte contre le VIH et le SIDA. Et puis là, on fait une émission qui est en rapport cette fois-ci plutôt avec le 17 mai, qui est comme toutes les années la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, et ce depuis 2005. C'est la 20e année, tous les 17 mai.
La 20e ?
20e.
Bah oui, 20e. J'ai dit quoi ?
2005.
Ouais. J'ai dit 20e ?
Oui, c'est pas grave.
Ah, merde, on est qu'en 2015.
T'en
n'oublie
pas,
année.
Attends, déjà que... Merci.
Je sais pas pourquoi, 2025. Non,
tu viens de mettre 10 ans à Bernard, là, il frôle les 70, il est très mal, le pauvre.
Oh, mais il sera encore là, tu verras, oui. Derrière la console, et puis
mais
tu
oui,
sais, l'alcool,
sûr,
ça
conserve.
Ça conserve.
Oui.
Alors, du coup, donc tous les 17 mai, donc depuis oui. 10 ans, effectivement, on a cette journée. Le 17 mai, c'est pas non plus anodin, cette date. C'est un choix qui a été fait de cette date par rapport au fait que l'homosexualité est sortie des maladies mentales voilà, de l'Organisation mondiale de la santé un 17 mai 1990.
Oui.
C'est super, hein, jusqu'en 1990, nous étions des malades mentaux
voilà.
Et à partir du 17 mai, on n'est plus des malades mentaux. Ce qui n'est pas tout à fait le cas d'ailleurs pour les transgenres. Eux, ils sont encore dans le bateau un petit peu.
Oui.
Il y a un parcours psychiatrique qui leur est imposé oui. en France, par exemple, qui n'est pas très, qui est une des revendications trans d'ailleurs. Mais nous, on est sortis de l'auberge, ça y est, on est des gens sains. Mais apparemment, tous les pays ne pensent pas la même chose. En tout cas, c'est pour ça que Sébastien est là. Sébastien, tu travailles au Forum des réfugiés et aussi tu es bénévole à la CIMAD. Alors la CIMAD, on avait le Forum des réfugiés, on les avait un petit peu présentés, mais je pense que ça vaut le coup de représenter les deux associations. C'était des associations, l'une œcuménique
et l'autre non. Pas l'autre.
Voilà. Donc la CIMAD, on va commencer par la CIMAD,
et
si
donc,
tu veux.
Oui, la CIMAD, donc à ce vieille association de défense de droits des étrangers, puisque la CIMAD est née pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1939. Elle a aidé à ce que les déplacés... de l'invasion allemande en Alsace-Lorraine puissent être eh bien, accueillis sur les autres territoires français, et notamment en Auvergne. Et après, elle s'est notamment beaucoup manifestée pendant la guerre d'Algérie, mais avant la libération, et puis la grande marche de 1983, la marche des beurs, qui a été un très très grand moment pour la CIMAD, puisque, et surtout à Lyon, puisque Jean Costil et Delorme, le prêtre Delorme, ont été reçus par François Mitterrand
ouais.
et ont permis l'obtention d'une loi et par cette loi de la carte de résident de 10 ans de plein droit pour un certain nombre d'étrangers.
La CIMAD, c'est une association connue, certes, comme on l'avait déjà précisé, mais qui n'a pas la renommée, je dirais, de la Croix-Rouge, par exemple, ou de ce type d'association. Malgré... Bon, attention, oui. Par rapport au grand public, je veux dire, c'est moins connu, c'est pas quelque chose...
Oui, c'est moins connu, parce que je pense que...
Malgré un travail de fond et un travail très important.
C'est sûr, je pense que c'est moins connu, parce que le champ d'intervention de la CIMAD reste bien plus restreint au final que la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, ouais. Il y a des missions internationales. Voilà, c'est les secours au quotidien, les sans-abri. Voilà. Alors qu'effectivement, la CIMAD, on est sur une association qui a quand même été le pilier de la défense des droits des étrangers depuis 40 ou 50 ans. Hein, parce que même s'il y a d'autres associations qui interviennent dans ce domaine-là, la CIMAD reste la référence tant sur le fond que même de manière historique. Voilà, après c'est sûr que ça parle peut-être moins aux gens parce que on est peut-être moins sensible à ces problématiques sur les droits des étrangers, même si aujourd'hui les médias en parlent beaucoup, ça n'a pas toujours été le cas.
D'accord.
Oui, j'ai une question, excuse-moi Gérald, je te coupe. Le mot œcuménique en fait, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui?
Alors en fait pour la CIMADE d'aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire parce que en fait il est plus tout à fait exact même de dire que la CIMADE est une association œcuménique puisque ça a été retiré de l'article 1er l'année dernière de ses statuts. Donc la CIMADE n'est plus une association œcuménique, c'est-à-dire qu'elle ne se revendique plus sur ses attaches protestantes.
Forum des réfugiés, donc quelle est la différence entre Forum des réfugiés et CIMADE? Ils sont sur le même champ d'activité pourtant.
Alors oui, alors Forum des réfugiés en fait est une émanation de la CIMADE et d'un certain nombre d'autres associations ici à Lyon, notamment l'entraide Pierre Valdo, qui a été créée pour prendre en charge les demandeurs d'asile. Donc la mission de Forum Réfugiés, hein, c'est avant tout l'accueil, la prise en charge, le suivi, l'aide aux demandeurs d'asile et également aux réfugiés statutaires, puisque Forum Réfugiés est une des seules associations en France qui bénéficie d'un programme d'intégration, c'est même la seule d'ailleurs, qui bénéficie d'un programme d'intégration pour les réfugiés statutaires, c'est-à-dire après l'obtention du statut. Et alors que la plupart des associations sont au stade de la demande d'asile, mais une fois que la personne, si elle a obtenu son statut, la mission de l'association s'arrête.
En ce qui concerne donc le droit des étrangers, justement, je ne sais pas, petite parenthèse, mais en ce moment, on parle beaucoup de cette vidéo qui est diffusée sur tous les réseaux sociaux sur les violences policières donc perpétrées sur dans le Pas-de-Calais sur donc tous ces réfugiés qui cherchent à rejoindre la Grande-Bretagne. C'est clandestin, comme on dit. Et on a vu des scènes assez dures. Est-ce que c'est, à ton avis, enfin, je ne sais pas si tu en as un, d'ailleurs, je pense que oui, mais c'est bien pourquoi je te pose la question. Est-ce que c'est un cas isolé ou est-ce que c'est la violence policière vis-à-vis des personnes, des demandeurs d'asile ou des clandestins est aussi systématique et systématisée en France?
Je pense que la violence policière, elle existe, hein, et la vidéo le montre très bien. Est-ce qu'elle est systématique sur les demandeurs d'asile? Ça dépend effectivement, ça dépend des situations. Hein. Il faut voir les.
Est-ce que là, par exemple, c'est le hasard a fait que quelqu'un a pu filmer une scène qui est en fait la réalité quotidienne de clandestins voilà.
Alors
en fait,
après, moi,
c'est difficile à dire. Ouais.
Moi, je sais pas à quel.
Les syndicats de police disent non, évidemment.
Alors il y a des. Il y a certainement des difficultés dans les services de police. Mais je pense que, voilà, il faut être certain qu'effectivement, là, cette fois-ci, ça a été filmé par un membre d'une association. Je veux dire, effectivement, hein, les migrants ne provoquaient pas les policiers. Je pense que c'est des situations qui se produisent, à mon avis, assez régulièrement. On ne peut pas en tirer un cas général sur la situation des policiers vis-à-vis des demandeurs d'asile sur le territoire français. Mais voilà, je pense que c'est le genre de choses qui arrivent parce que il y a des migrants, il y a des contrôles et que
Mais je veux dire, la violence policière, je veux pas systématiser non plus, mais on sait qu'elles existent et qu'elles ont toujours existé. Bon, après, est-ce que c'est des cas marginaux, etc. Mais on sait que bon.
Alors les
commissariats de police, par exemple, il y a eu des affaires de garde à vue violentes, quoi, où des gens ont été molestés, frappés, etc.
Alors les syndicats de police ont commencé un peu à se défendre en disant attendez de juger. Les agents qui ont frappé les clandestins, il faut qu'on ait toutes les preuves, à savoir en gros si les clandestins l'avaient pas cherché, en gros s'ils n'avaient pas provoqué. On voit clairement sur la vidéo que non, il y en a qui essayent de s'enfuir, qui se font rattraper et à qui on donne des coups de pied.
Mais on sent qu'il y a une violence gratuite. Ouais.
On en voit directement, il y en a qui tombent des camions, enfin comme s'ils étaient violemment poussés en dehors des camions. Bon. On voit clairement que là leur discours, leur défense, elle tient pas.
Ouais, ils sont frappés visiblement gratuitement, quoi. Oui, frappés, molestés.
Après que
balancés,
ce soit systématique, ça nous on peut pas le dire.
Ouais, ouais.
Mais là c'est la preuve que ça existe, ça peut exister.
Ça
a existé
une
fois, ça peut exister deux fois, trois fois, etc.
Alors donc dans le cadre de la journée, c'était la petite parenthèse, mais c'est vrai que c'était important d'abord parce que tu étais là et ça te concerne directement par tes activités, Sébastien. Et c'est quand même le buzz et ça met un coup de projecteur sur la police une nouvelle fois qui n'est pas encore une fois très positif pour les forces de la police.
Après, ce que je rajoute juste quelque chose, c'est pas pour défendre la police, hein, mais disons que le gouvernement français essaye de rester ami avec le gouvernement anglais. Cameron a fait un discours il y a quelques jours en disant que, en gros, ils accepteraient plus, ils accepteraient plus l'immigration, qu'elle allait être beaucoup plus contrôlée qu'avant, qu'ils n'allaient pas hésiter à renvoyer des gens dans leur pays sous telle ou telle condition. Ça allait vraiment être des conditions très, très drastiques. Moi, ça ne m'étonne pas du coup que les policiers aient eu l'ordre d'avoir un peu la main lourde ou par rapport à ça, quoi, parce que. À mon avis, si c'est des clandestins qui sont passés par la France, qui passent par Calais pour aller en Angleterre, il est possible qu'après nous, en tant que, le gouvernement français se fasse taper sur les doigts, je suppose. Après, j'ai pas entendu grandes personnalités politiques s'exprimer sur le sujet. Oui, après, j'ai pas regardé toutes les infos H24, voilà.
On sait pas si c'est aussi effectivement quelque chose qui s'est fait sur le moment,
oui,
ou si effectivement ils avaient des instructions pour être fermes, etc. Après, comment on interprète les instructions Bon. A priori, la police est quand même un service d'État, un service des fonctionnaires qui sont là pour protéger les citoyens, certes, mais pas pour molester et taper les gens, sauf en cas de défense vraiment. S'ils sont attaqués, bon, on peut comprendre, mais là, c'était visiblement pas le cas. Bref, il y aura une instruction, normalement, on verra bien la suite des événements. Alors donc, dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, nous, on a voulu, à Pluriel Gay, mettre un peu la lumière, justement, sur des demandeurs d'asile, mais des demandeurs d'asile pour raison d'homosexualité. Donc, je vais placer un petit peu très rapidement le contexte, puisque dans le contexte plus international, je dirais, mais on en a déjà parlé, donc je ne vais pas faire très long, on sait que dans le monde, il y a encore plus de 70 pays où l'homosexualité est pénalisée. On va parler uniquement pour l'instant sur le plan un peu juridique, pénalisation de l'homosexualité dans 70 pays. Et on sait également que malheureusement, parmi les peines prévues par la législation de certains pays, se figure la peine de mort. Donc il y a 7 pays comme ça qui prévoient une peine de mort pour les pratiques homosexuelles. Donc on peut les citer, le Soudan, en vrac. Le Soudan, l'Afghanistan, l'Arabie Saoudite, le Yémen, l'Iran, la Mauritanie, le Brunei, 12 États du Nigeria. Donc le Nigeria, c'est un État fédéral, seulement 12 appliquent la peine de mort dans le cadre de la charia. Le Pakistan, la Somalie, les Émirats arabes unis. Alors, on n'est pas là pour faire le procès de l'islam, mais c'est vrai que c'est 7 pays musulmans. Après, ça ne n'empêche pas que l'homophobie existe de partout. Existe partout, y compris dans des pays non musulmans. On connaît le cas illustre de la Russie, par exemple, certes qui n'a pas la peine de mort, mais qui pénalise quand même d'une certaine façon en interdisant la propagande guillemets homosexuelle, en associant l'homosexualité quand même à des malades qui pourraient donner leur maladie aux autres. Donc c'est un peu.
Il y a des pays africains où il y a dominance catholique qui.
Il y a, voilà, exactement.
Tout qui rejette, qui condamne, qui pénalise l'homosexualité de la même façon.
Exactement. Alors, il n'empêche que le constat est là. Sur les 7 pays qui appliquent la peine de mort, sont 7 pays musulmans. Bon, on ne sait pas trop si c'est appliqué vraiment à la lettre. Mmh. On a des témoignages, on a des informations parfois, que parfois il faut prendre aussi avec des pincettes. Mais bon, on pense aussi par exemple à Daesh, l'État islamique. Qui n'est pas un pays, donc, qui est un corps actif, un corps constitué, je dirais, actif, militaire, politique et religieux, et qui a tué donc, des homosexuels. Il y a eu des images, etc., de personnes qui étaient pendues ou qui étaient jetées des fenêtres. Mmh. On disait, ils sont...
Jetés des toits, oui.
Jetés des toits parce qu'ils sont homosexuels. Bref. Mais après, on peut difficilement... chiffrer la réalité de l'application de la peine de mort. Voilà. Alors, il se trouve donc que 70 pays pénalisent, plus de 70 pays, dont 7 appliquent la peine de mort. Il se trouve aussi qu'il y a des pays sans qu'il y ait de pénalité ou de pénalisation. Ce sont des pays qui, culturellement, rejettent l'homosexualité, sans que ça se traduise dans les faits juridiques, en tout cas. En tout état de cause, dans les deux cas, des personnes peuvent se sentir menacées dans leur propre pays et souhaiter venir donc en France ou ailleurs, dans d'autres pays européens. On va se concentrer un peu sur l'Europe plutôt. Et Sébastien, en plus, toi, tu es... parce qu'on parlera un petit peu de droit quand même, et tu es spécialiste du droit européen, ça tombe bien, aussi. Donc voilà, des personnes peuvent se sentir menacées, et on a des exemples. En tout cas, on sait que les demandes d'asile pour raison d'homosexualité se sont multipliées ces dernières années. Il y a, c'est par, le, par centaines. Alors encore une fois, on n'a pas un chiffre précis, c'est très difficile. Mais on sait qu'au moins plusieurs centaines. C'est assez vague, on n'arrive pas à savoir exactement. Mais en tout cas, c'est en augmentation. Et le les derniers cas qu'on a, les cas les plus récents, donc il s'agit de deux femmes d'ailleurs, qui venaient toutes les deux d'Afrique, une du Cameroun et l'autre, alors je vais essayer de retrouver l'autre pays. J'avais pris des notes évidemment. Je m'étais renseigné, donc une qui venait du Cameroun, le deuxième pays, mais je vais retrouver, où toutes les deux, donc en tant que lesbiennes, elles étaient donc se sentaient menacées. Elles ont fait une demande, l'une à la Grande-Bretagne et l'autre à l'Espagne, donc à Madrid. Toutes les deux demandes ont été rejetées d'ailleurs par les deux pays en question, mais ça on verra pourquoi. Mais concrètement, donc dans le cadre de la demande d'asile pour raison d'homosexualité, ces demandes sont, en Europe, en tout cas dans les pays européens, recevables. Est-ce que dans les faits, est-ce qu'il y a des dispositions prises, que ce soit sous forme de préconisations, de directives venant de l'Union européenne ou d'autres instances européennes? Je pense à la Cour de justice ou à la Cour européenne des droits de l'homme. Est-ce qu'il y a des écrits, en fait, concernant précisément les réfugiés pour raison d'homosexualité, d'orientation sexuelle?
Alors, oui, il y a un écrit, et le principal écrit, c'est que déjà, le fait de demander l'asile sur une persécution, sur une crainte de persécution en raison de son orientation sexuelle, c'est inscrit dans la Convention de Genève de 1951. C'est-à-dire que ce qui détermine le statut de réfugié aujourd'hui en droit international, la Convention de Genève de 1951 prévoit dans son, c'est l'article 10, paragraphe 1, petit d, alinéa 2, mais c'est stipulé dans cette convention. C'est également présent sur les textes européens, parce que, bien évidemment, s'il y a une convention internationale, les textes européens doivent s'aligner là-dessus. Il y a donc effectivement au sein de la directive qui régit toutes les règles en matière d'asile au sein de l'Union européenne. Donc c'est une directive de 2011 qui a remplacé une précédente qui était là en 2004. Mais là aussi, c'est expressément stipulé que l'orientation sexuelle est un motif pour demander l'asile et se voir octroyer une protection internationale. C'est ça le plus important.
Donc une demande d'asile pour raison d'homosexualité est recevable en Europe?
C'est recevable en Europe. Après, ce qui est ce qui est à voir, et c'est la condition de cette recevabilité. C'est-à-dire là où ça se complique un peu, on peut dire, c'est-à-dire, c'est voilà, qu'est-ce qui détermine la recevabilité, l'acceptation de la crainte, de la persécution, et après, on peut dire quel en est l'examen. Et c'est là qu'on voit que c'est d'autant plus restrictif, c'est-à-dire que, d'une part, il faut que la personne qui se dit victime de persécution en raison de son orientation sexuelle doit déterminer l'appartenance à un groupe social, puisque la Convention de Genève se fonde sur le critère de l'appartenance au groupe social. Comment déterminer l'appartenance au groupe social? C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une caractéristique qui nous soit propre, et pour l'orientation sexuelle, on considère que c'est tellement inné et immuable à la personne que celle-ci ne peut pas vivre sans l'accepter ou ne peut pas s'en défaire. D'accord, et c'est pour ça qu'on considère que c'est propre à la personne. Et après, pour que, donc ça c'est la caractéristique sociale, et pour que ce soit constitué comme étant un groupe, donc il faut être plusieurs et il faut être reconnu en tant que tel par la société. Et déjà là, sur cette notion de groupe social, on a une petite distinction, c'est-à-dire que le Haut Commissariat des réfugiés au sein des Nations Unies nous dit, voilà, nous, il faut qu'il y ait une des deux conditions, ça suffit. Soit on est reconnu comme appartenant à une minorité ou à un groupe social particulier dans un pays en raison de son orientation sexuelle, soit c'est parce qu'on le définit comme étant, suivant sa personnalité, c'est cet élément-là. Au niveau européen, on est plutôt sur un critère cumulatif. C'est-à-dire, c'est à la fois la perception de soi et la perception par le groupe social. Ensuite, donc là on est considéré comme étant un groupe social à part. Groupe social qui peut faire, et du fait de son appartenance nous en tant qu'individu, peut faire l'objet de persécution. Après, comment on définit la crainte de persécution? Et c'est là que ça devient effectivement assez restrictif, c'est-à-dire que pour que la crainte de persécution soit présumée, il faut être faut habiter, il faut venir d'un État dans lequel il y a une pénalisation de l'homosexualité. Mmh. Donc on réduit aux 70 pays qu'on a vus, que tu as cité tout à l'heure. Donc ça crée de facto, au niveau du droit, une distinction qui est claire entre des personnes qui, venant de ces 70 pays, vont directement être considérées comme en danger, pouvant craindre une persécution. Après, il faudra qu'à elle, bien évidemment, de ramener ça au niveau individuel, au niveau personnel, puisque la demande d'asile, c'est toujours par rapport aux craintes qui sont personnelles. Et d'où l'importance, après, du témoignage et de leur récit. Et puis des personnes qui ne feront pas partie de ces 70 pays, mais qui, soit parce qu'on sera dans un état où, effectivement, alors, soit il y a des coutumes sociales, culturelles, religieuses, soit simplement des pays, parce qu'il y en a beaucoup, où s'il n'y a pas de pénalisation, s'il n'y a pas de loi contre l'homosexualité ou sur les questions d'orientation sexuelle, il n'y a pas d'interdiction des discriminations. Mmh. On a beaucoup de pays comme ça, où on pourrait citer la Côte d'Ivoire, l'Albanie, la Moldavie, la Turquie, l'Ukraine, pour être un petit peu proche de l'Europe, voilà, où il n'y a pas d'interdiction des discriminations. Donc, en soi, s'il n'y a pas d'interdiction, qu'est-ce qui empêche de discriminer le groupe social?
Donc, en gros, dans les textes dans ces pays-là, en gros, c'est les homosexuels, ils sont libres de vivre plutôt tranquillement là-bas, mais en même temps, l'homophobe, il est libre aussi de faire ce qu'il veut de son côté.
C'est ça. C'est-à-dire qu'on est dans... Et c'est l'objet de beaucoup de demandes d'asile. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où, effectivement... Ben, c'est pas parce qu'on est homosexuel qu'on va être arrêté, emprisonné et
aller au tribunal
sur son homosexualité. C'est pas ça qui est reproché, mais voilà, c'est à dire que ben, effectivement l'homophobe pourra critiquer, les voisins pourront dénoncer aux autorités, et c'est ça,
pourra perdre son travail parce que l'employeur emploie qu'il ou elle est homosexuel et peut être renvoyé
sans recours, c'est contraire aux mœurs. Et après, voilà, alors ce qui va être évalué après, c'est la capacité qu'a l'État, sans interdire la discrimination, mais à protéger. C'est-à-dire que la personne est renvoyée parce qu'effectivement l'employeur ne veut pas avoir d'homosexuels dans sa société. Est-ce que si la personne fait un recours contre ce licenciement en le considérant comme discriminatoire, est-ce qu'il va y avoir une sanction? Ou est-ce que l'État va pouvoir trouver un autre motif pour sanctionner le licenciement, ou est-ce qu'au contraire l'État va laisser traîner la procédure, ou même, parce qu'il y a des cas où la police va refuser de prendre les plaintes, voilà. Et du coup on se rend compte qu'on a des États où on n'a pas d'interdiction, pas de pénalisation, mais globalement il n'y a aucune défense des droits qui n'est possible. Et donc là on revient dans une crainte de persécution qui devient légitime.
D'accord.
Mais tout ça dure combien de temps, tous les quand il y a un réfugié en fait qui arrive, qui se présente, donc il y a un entretien, enfin il y a plusieurs entretiens, ça se passe comment? Et alors, ça s'étale sur combien de temps du coup? Parce que le temps de réunir toutes les infos, je suppose que c'est assez long.
Alors c'est effectivement très compliqué, c'est assez long. Alors le demandeur d'asile, quand il arrive en Europe, parce que le système est à peu près harmonisé, si on prend le cas de la France, donc on demande l'asile, on arrive en France, on arrive en France, on veut demander l'asile, donc très simplement, pour demander l'asile, il suffit de justifier d'une domiciliation sur le territoire. Donc soit on va auprès d'une association comme Forum Réfugiés qui s'occupe des demandeurs d'asile et qui du coup fait cette domiciliation, soit on a un proche. Après on va en préfecture, on dit voilà, moi, donc devant l'autorité de l'État, moi je veux demander l'asile, j'ai besoin d'une protection. Les autorités, le préfet, est obligé de satisfaire cette demande en délivrant un dossier de demande d'asile. Après, il va y avoir des distinctions sur le fait que, parce qu'avec les directives européennes, on distingue deux procédures en France. Il y a une procédure dite normale, puis il y a une procédure dite prioritaire. La procédure prioritaire, ce sera soit pour des personnes qui proviennent d'un pays dit d'origine sûre. Donc ça, c'est l'OFPRA, qui est l'organisme en charge de l'étude des demandes d'asile en France, qui détermine un certain nombre de pays dans lesquels il considère qu'il n'y a pas de risque. On regarde la Convention de Genève, la Convention de Genève qui recoupe 5 risques: religion, nationalité, opinion politique, groupe social et la race. Donc voilà, liste de pays d'origine sûre. Après, on voit que ces pays d'origine sûre sont différents en fonction du temps. Le Kosovo a été un pays d'origine sûre, et il ne l'est plus. Ce ne sont pas les mêmes entre les différents pays de l'Union européenne. Donc c'est assez...
Fluctuant.
Et on a des doutes. Et par exemple, sur la question de l'orientation sexuelle, on a le Sénégal. Le Sénégal qui est un pays d'origine sûre pour la France. On estime qu'il n'y a pas de problème en matière de...
Et ça, qui le décide alors ? C'est l'OFPRA ou...
C'est l'OFPRA.
Donc l'Office français de protection des réfugiés...
Et des apatrides.
Et des apatrides, qui est un établissement public. Enfin, une administration.
Qui est une administration, qui est un établissement public, qui est depuis 2010, et ça c'est un petit peu dommage, c'est mon opinion personnelle, mais qui est sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Hein, donc,
Qui a été transféré en fait.
Des
affaires étrangères
au ministère de l'Intérieur.
C'est quand même révélateur de quelque chose à quelque part. Hein, bon.
Tu parles d'une surprise.
Voilà, quand on sait qu'après, une fois que la demande d'asile, si elle est rejetée, que la personne est déboutée, c'est le même ministère de l'Intérieur, par intermédiaire du préfet, qui va procéder à l'éloignement et les services de police, eux aussi, dépendant du ministère de l'Intérieur, qui vont exécuter cet éloignement. On voit que tout le processus...
Ils s'entendent bien, oui. C'est plus rapide comme ça.
Voilà, c'est ça. Et puis, on a aussi le cas, après, on fera la petite pause musicale, mais on a aussi le cas des préfets qui renvoient des demandeurs d'asile avant la fin de l'étude, avant fin d'examen des dossiers. C'est une chose qui n'est pas rare.
Alors, c'est une chose qui n'est pas rare, parce que, alors, effectivement, si on est
parce que, excuse-moi, quand le dossier est étudié, par exemple, personne se trouve où pendant l'étude du dossier ? Elle est sur le territoire français ?
Elle est sur le territoire français. Si on est, c'est là la grosse différence, hein, parce que tout à l'heure, effectivement, je suis un peu parti. Mais voilà, quand on est en procédure normale, effectivement, le préfet nous autorise à séjourner sur le territoire pendant l'examen du dossier. Donc, on bénéficie d'un hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, en CADA, ou alors, sauf si on est hébergé par des proches. Mais voilà. Pendant l'examen de la demande, bien évidemment, on est autorisé à rester sur le territoire parce qu'on a une crainte dans son pays d'origine, donc bien évidemment, on ne peut pas être expulsé. Si on est en procédure prioritaire, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire que, globalement, pendant l'examen de la demande à l'OFPRA, on ne peut pas être expulsé, mais on n'a pas le droit de rester en France non plus. Hein, donc on est dans un entre-deux totalement inconfortable qui fait que la plupart des gens qui sont en procédure prioritaire ne bénéficient pas d'hébergement parce que du coup, on n'a pas de droit au travail... Quand on est demandeur d'asile en procédure prioritaire, on a le droit à strictement rien, si ce n'est l'aide médicale d'État que tous les étrangers en situation irrégulière ont sur le territoire. Mais voilà. Mais normalement, effectivement, on reste sur le territoire français. Et après, ce qui peut effectivement se passer, c'est que le jour où l'OFPRA rejette la demande, le préfet, effectivement, peut se dépêcher de prendre l'obligation de quitter le territoire, alors que si la personne était en procédure normale... Eh bien, son recours à la Cour nationale du droit d'asile, qui donc sanctionne les décisions de l'OFPRA, ce recours est suspensif. Donc là aussi, pendant l'examen de l'étude du dossier à la Cour nationale du droit d'asile, la personne doit être autorisée à séjourner sur le territoire.
D'accord.
Ce qui n'est pas le cas en procédure prioritaire.
Et donc, encore avant de passer encore à ta sélection musicale, ma chère Loulou, dont tu vas nous parler. Ça, c'est encore une parenthèse que je fais, puisque donc en décembre dernier, quand tu étais venu, Sébastien, on avait évoqué donc le préfet du Rhône, pas très aimé des associations.
Qui a changé.
Il est parti, je crois, en Île-de-France, c'est ça ?
En Île-de-France, oui, c'est ça.
Voilà.
Préfet d'Île-de-France.
Il est préfet d'Île-de-France. Et lui, c'est un spécialiste, peut-être vous ne l'aimiez pas trop, les associations, hein, par rapport aux demandeurs d'asile, parce que c'est un spécialiste de ça, de renvoyer les gens un petit peu comme ça rapidement, le plus rapidement possible dans leur pays.
Il y avait pas que ça, mais effectivement, alors, le fait est, c'est que, oui, à Lyon, Lyon et le Rhône, parce que c'est par département les demandes d'asile, le Rhône est le deuxième foyer après l'Île-de-France en termes de demandes d'asile. Donc c'est sûr que... Et c'est un endroit où il y a énormément de demandes albanaises, et les ressortissants albanais sont des pays d'origine sûre, donc effectivement, ils bénéficient pour la plupart d'aucune prise en charge, et effectivement, les expulsions arrivent très rapidement après les décisions OFPRA.
Donc vous avez espoir peut-être une amélioration avec le nouveau préfet ?
Dont les premières semaines n'ont pas été dans ce sens-là.
Bon, moi je reviendrai tout à l'heure après la pause musicale sur nos deux petites jeunes femmes de Cameroun et du Nigeria. J'ai retrouvé l'autre pays, c'est Nigeria. Le Nigeria quand même qui applique la peine de mort. Hein, dans certains états du Nigeria en tout cas. On a dit 12 états qui appliquent la charia, la peine de mort. Mais on reviendra à ça après la chanson que tu nous as prévue, ma petite Lolo.
Oui, qui est une chanson de Bernard Lavilliers qui s'appelle « L'exilé ». Donc c'est une chanson qui date de 2010, donc qui est plutôt récente, qui est très récente même. En gros, il raconte l'histoire d'un exilé, en fait quelqu'un qui est obligé, qui se sent obligé de quitter sa terre natale pour essayer de trouver la liberté, du travail, un mieux-être. Je me souviens plus s'il dit la France exactement, mais bon, dans un pays qui est censé l'accueillir. Et en fait, il se rend compte que là où il pense pouvoir être respecté entre êtres humains, quelquefois, en fait, les pays qui passent pour les plus ouverts d'esprit et les plus accueillants envers les réfugiés, en fait, lui, il s'aperçoit que l'accueil n'est pas si bon que ça, et il se retrouve à nouveau enfermé dans un pays où, normalement, il aurait dû retrouver sa liberté. Voilà.
D'accord.
C'est une jolie chanson.
L'exilé, c'est parti. Bernardo, musique.
J'ai deux bracelets d'acier qui entravent mes bras. Le bruit des bottes qui résonne, mon père a connu ça. Frapper à des portes en fer qui ne s'ouvrent pas. Parler à des gens trop fiers qui ne me voient pas. Plus rester, plus partir, plus rêver. On finit naufragé, solitaire, barbelé aux frontières. Capitale douceur Paris, je dormais dans tes bras. Capitale violence aussi, je ne te reconnais pas. Toi Paris, ma beauté fatale, symbole de la France. Je me suis fait casser normal par ton indifférence. Plus rester, plus partir, plus rêver, on finit naufragé, solitaire, exilé, volontaire. Quel bas de novembre encore pose ses mains sur moi. Bout de fer et de sang dans la mort, je n'aime pas ce mois-là. La liste des droits de l'homme, la mélancolie. Juste un homme parmi les hommes, tout seul dans Paris. Plus rester, plus partir, plus rêver, on finit naufragé, solitaire, exilé, volontaire.
Pluriel Gay, la seule émission LGBT sur Lyon et sa région. Chaque mercredi, de 20h à 21h, sur Radio Pluriel.
De retour dans le studio avec Sébastien, de la CIMAD, Forum des réfugiés. Donc nous continuons un petit peu sur notre thème. Nous continuons d'ailleurs carrément dans le thème où nous nous sommes fixés aujourd'hui, les réfugiés pour raison d'homosexualité. Alors on a parlé du contexte dans lequel les personnes pouvaient faire une demande d'asile pour raison d'orientation sexuelle, dans quel contexte et quelles étaient donc les dispositions prévues par diverses conventions internationales ou européennes. Je citais aussi le cas donc de deux femmes lesbiennes Donc une du Cameroun et l'autre du Nigeria, qui ont chacune la personne venant du Cameroun en Espagne et la personne venant du Nigeria en Grande-Bretagne, demandé statut de réfugié, donc, pour cause d'homosexualité, en disant dans nos pays on est menacé, on se sent menacé. Toutes les deux ont vu leur demande rejetée. Et ça va faire le tremplin, je dirais, vers la dernière partie de l'émission, c'est comment on va définir la recevabilité, comment on va définir, oui d'accord, on a compris que vous étiez homosexuel, que vous y avez un risque, etc. On a parlé des critères fixés par l'OFPRA, mais là on va parler plus au niveau de l'intimité de la personne finalement, puisque la personne camerounaise disait qu'elle avait produit, par exemple, en Espagne, à Madrid, elle avait produit un article dans lequel, une coupure de presse dans lequel elle était dénoncée, puisqu'il y a des pays où on s'amuse à dénoncer les homosexuels, où elle a été stigmatisée comme une sorte de gourou d'une secte lesbienne.
Très bien.
Voilà, très bien.
Secte lesbienne, mais c'est génial.
Voilà, en fait, certainement une association, une réunion de femmes, et puis elle a été... Donc son nom a été publié, la photo a été publiée. Donc elle dit voilà, elle présente la coupure de presse. Regardez, c'est moi là-dessus. On traite de lesbienne et on me dit que je suis un danger pour le pays. Et puis la Nigériane, donc en l'occurrence, elle vient d'un pays où elle pouvait mourir, être condamnée à mort. Mais dans les deux cas, on leur a refusé le statut de réfugié pour cette raison-là. On leur a dit non, c'est pas possible. En ce qui concerne la Nigériane, l'argument en Grande-Bretagne qui a été donné, c'est « mais vous avez des enfants ». Elle a dit « mais alors ?» Elle a dit « vous avez des enfants, une femme homosexuelle, par principe, ne peut pas avoir d'enfants ».
Oh là là.
C'est une femme qui avait eu des enfants par une voie traditionnelle, qui avait été mariée.
Ils sont où, ces enfants ?
Qui avait eu, je suppose qu'ils sont restés au pays avec leur père, j'en sais rien, mes informations ne le disent pas. Mais en tout cas, elle est partie, on comprend, parce qu'elle risque la mort quand même du Nigeria, probablement en laissant ses enfants. Elle a eu, donc, a été mariée, elle a eu une vie de famille, et alors ? Elle peut très bien aussi aimer les femmes et avoir décidé, la vie a pu faire qu'à un moment donné, elle soit tombée amoureuse d'une femme, ou qu'elle ait décidé de vivre différemment. Ça n'a pas empêché qu'à un moment donné dans sa vie, elle a été femme mariée avec des enfants. Et on lui a dit, non, vous avez été mariée, vous avez des enfants, c'est pas possible, c'est du leurre, quoi. C'est un faux prétexte.
Donc là, en Angleterre, donc c'est d'une mauvaise foi sans nom. Là.
Voilà. Et les deux demandes ont été rejetées. Ça, il y a peu d'exemples. Évidemment, je fais des recherches sur Internet. Il n'y a pas beaucoup de témoignages sur des réfugiés donc, dans ce cadre-là pour l'orientation sexuelle. Alors, par contre, je voudrais faire une dernière petite aparté avant de te repasser la parole, Sébastien. En ce moment, alors je ne sais plus si c'est toujours sur le replay de Arte, mais il y a un court-métrage de 7 minutes allemand qui est basé sur un fait réel. Donc le court-métrage qui est très bien fait, qui est très percutant, on voit donc un gars qui se fait choper par la douane. Ça se passe en République tchèque, et c'est pas sans raison que ça se passe en République tchèque, par des douaniers qui l'amènent dans un bureau où il est interrogé. Il lui dit « Moi, je suis iranien et je viens d'un pays où je risque la mort parce que je suis homosexuel. Donc voilà, je viens ici, je viens dans votre pays, je demande l'asile quoi pour fuir mon pays qui me menace de mort. » Les douaniers décident de lui faire passer un test phallométrique. Le test phallométrique consiste à brancher un appareil sur son pénis, tout en même temps lui faisant le visionner en projetant un film dans une salle où il est seul avec cet appareil connecté à sa zigounette, un film porno, homosexuel, gay, et voir les réactions et les enregistrer pour voir s'il réagit vraiment à la sexualité homosexuelle, si ça l'excite, etc. Et moi je pensais que c'était une blague, tout ça, bien rigolote, hein, ce petit court-métrage. Je dis pas comment ça se termine, parce que si vous voulez le voir, s'il est encore en replay sur Arte, faites-le, ou sur YouTube, vous devez le trouver. Je ne dévoilerai pas la fin, parce que c'est vraiment hilarant, la façon dont ça se passe. À la fin du petit film allemand, il est dit que c'est une pratique qui a existé jusqu'en 2010 et qu'elle a été condamnée par la Cour européenne de la justice. C'est pour ça qu'elle a été suspendue dans les pays qui la pratiquaient, dont la République tchèque, puisque c'était une invention d'un médecin psychiatre tchèque des années 50, à l'époque où on pensait qu'on pouvait soigner l'homosexualité. Oui, oui. Voilà. Ce phallomètre, ça s'appelle comme ça, était utilisé dans les tests pour déceler le vrai du faux. Est-ce que ce qu'il invoque est vrai ou est-ce que c'est un faux prétexte, s'il raconte qu'il est homo, mais en fait, c'est pas vrai. Ça, tout ça pour dire que justement, on évoquait un petit peu ça, les critères. Quels critères appliquer ? Parce que ça, c'est compliqué finalement. C'est beaucoup plus compliqué de prouver qu'on est homosexuel finalement. Et puis face à la personne, comment va-t-elle réagir ? Et qu'est-ce qu'elle a envie d'entendre et de dire aussi de son côté ?
Alors effectivement, c'est très compliqué. Et à mon avis, c'est peut-être même plus compliqué que dans d'autres cas de demande d'asile. Le cas de la République tchèque, effectivement, est absolument flagrant. Hein, jusqu'en 2010... pays membre de l'Union européenne, pays membre de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est assez hallucinant effectivement ces tests phallométriques. Moi, j'étais pas non plus au courant avant de préparer cette émission et j'avoue que j'étais vraiment choqué par l'existence de ces pratiques.
Mais le petit court métrage, il est vraiment à regarder. Hein.
Et c'est vrai que cette idée. Et pourtant, le HCR préconise bien que les personnes qui ont en charge des demandes d'asile, et plus spécifiquement des demandes d'asile liées à l'orientation sexuelle, doivent être formées, doivent être informées, doivent connaître quelle est la réalité de la vie de ces personnes, qu'est-ce qui permet de sortir des stéréotypes et de vraiment juger d'un vécu, d'une expérience. Et en fait, on se rend compte, en Europe, que jusqu'en 2010, on avait ce genre de test et que ça n'est qu'en 2014, le 2 décembre 2014, c'est-à-dire c'est très très peu de temps, que la Cour de justice de l'Union européenne a pris sur 3 affaires une décision très importante et où elle a délimité avec précision quels sont les pouvoirs effectivement de contrôle des États membres sur l'examen de ces demandes d'asile. 2 décembre 2014, où on a dit d'une part qu'il ne fallait pas considérer que la demande d'asile d'une personne n'était pas crédible parce que justement elle n'était pas capable de répondre à des questions sur les stéréotypes sur l'homosexualité, c'est-à-dire la question assez simple de vous connaissez pas d'association de défense des droits des homosexuels dans votre pays d'origine, donc on ne peut pas considérer que vous êtes homosexuel. C'était assez fréquent.
Puis à la base, il y a aussi la barrière de la langue, tout simplement,
alors,
très souvent.
Il y a effectivement la barrière de la langue. Alors ça, c'est vrai que sur les demandes d'asile, il y a le jeu des interprètes. Ça pose des problèmes. Ça arrive assez fréquemment parce que l'interprète est censé interpréter, mais traduire, et pas donner son interprétation personnelle sur les faits que le requérant lui raconte. Pour revenir sur ces critères. Il y a eu également donc la CJUE a interdit tous les interrogatoires sur les pratiques sexuelles. C'est-à-dire qu'il y avait aussi cette idée que tant que la personne ne démontrait pas avoir eu des pratiques homosexuelles, elle n'était pas considérée comme homosexuelle. La Cour de justice européenne a considéré, c'est un des atouts du traité de Lisbonne, que c'était une violation de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux, qui du coup là sert de référence en disant qu'il y avait une atteinte à la vie privée, à l'intimité de la personne. Et que c'était effectivement contraire aux droits de l'homme. Et puis, condamnation dans le même arrêt donc, de ces tests comme étant contraire à la dignité humaine. Donc tous les tests, que ce soit les tests phallométriques, mais que ce soit également la production d'enregistrements vidéo, c'est-à-dire par la personne. On demandait à ce que la personne produise des enregistrements vidéo. Et enfin, sur les aspects de l'intimité, c'est-à-dire que la Cour de justice estime, elle dit, une personne doit pouvoir voir examiner sa demande de protection sur son orientation sexuelle, bien évidemment sans avoir à raconter ses relations intimes. Il ne faut pas prendre ça comme un acquis. Et c'est pas de là que naît une crainte de persécution. Sachant que il faut repartir effectivement, et c'est là d'autant plus que on se rend compte de la nécessité de poser ces conditions. C'est-à-dire que si une personne se sent victime de crainte de persécution en raison de son orientation sexuelle dans son pays d'origine, on estime bien que pour se protéger, elle va plutôt vivre cachée, elle va plutôt avoir une tendance à se cacher, elle va plutôt avoir une tendance à ce qu'on appelle l'évitement. Et du coup, voilà, on peut pas lui demander. On peut pas lui demander d'avoir des révélations sur des aspects intimes.
Alors, ce qui concerne donc la personne camerounaise, d'ailleurs, comme quoi on a affaire encore à beaucoup de stéréotypes. En Espagne, on lui a dit, mais lorsque vous étiez dans votre pays, vous aviez une attitude très féminine. Vous habillez en femme, tout ça, c'est vrai, hein. On lui a dit, là, bon, depuis qu'elle était en Espagne, elle portait des pantalons, on lui disait, vous faites exprès pour nous faire croire que vous êtes homosexuel. En gros, c'était ça. Comme quoi, il y a aussi les stéréotypes de base, je dirais, qui rentrent en règne de compte. J'imagine qu'un mec qui sera pas efféminé, par exemple, on aura plus de doutes qu'un mec efféminé qui dira je suis homosexuel, par exemple, tout simplement.
Moi, je crois que tout ça, c'est surtout une grande hypocrisie. Et là, tu as cité quand même deux pays qui sont normalement ouverts d'esprit, l'Espagne avec l'ouverture du mariage, l'Angleterre pareil, l'Espagne avec PMA, etc. Deux pays européens qui sont quand même très ouverts d'esprit, qui ont fait avancer la loi. Et là, on voit clairement que le problème, c'est l'étranger.
Oui, tout
c'est
à fait. Oui.
C'est qu'ils veulent freiner, stopper les phénomènes d'immigration. C'est pas plus compliqué que ça. Du coup, ils vont se retrancher derrière des vieux préjugés, des clichés absolument dégueulasses, et pour dire ah bah non, ils vont sortir des excuses, mais limite qui datent du Moyen-Âge, en disant bah non, en fait, nous on voit très bien que vous êtes pas homo, donc vous rentrez chez vous.
Voilà, et
en fait, il ferait mieux de dire clairement on veut pas d'immigrés chez nous, donc vous revenez d'où vous venez. C'est mon avis après.
Non, mais mon avis, effectivement, parce que. Que ce soit, il y a beaucoup de décisions hein, de condamnation, notamment des Pays-Bas, effectivement de l'Espagne, de la Suède, hein, qui sont effectivement des pays européens sur lesquels on ne peut pas avoir de doute.
Oui, parce que la Cour européenne des droits de l'homme peut condamner des
peut
pays
condamner,
pour des pratiques.
Dans les deux cas que tu as cités, j'espère que ces personnes ont fait un recours à la Cour européenne des droits de l'homme.
Il faut qu'un organisme ou la personne physique fasse un recours auprès de la Cour européenne
des droits de l'homme.
Il y a des pays qui sont régulièrement condamnés dans le cadre des demandes d'asile. On cite souvent les anciens pays de l'Est, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a pas que. Hein, mais on cite souvent la Pologne, la Hongrie.
Tout à fait.
Mais il y a aussi apparemment la Grande-Bretagne, la Suède, l'Espagne qui peuvent être condamnés.
C'est ça. Alors effectivement, quand on va...
France.
La France aussi. Il y a eu des décisions assez récentes sur la France. Qui n'ont pas conduit à des condamnations, mais il y a eu des décisions quand même, donc c'est-à-dire que les affaires ont été portées. Alors ça, quand on pense à la... Il y a des décisions sur la Roumanie, sur... alors là, on va plutôt sanctionner, ce que je disais tout à l'heure, voilà, le fait qu'on n'interdit pas vraiment les discriminations dans ces pays-là, ou que s'il y a des lois d'interdiction, elles ne sont pas appliquées. Par contre, sur la Suède, l'Espagne ou les Pays-Bas, on va se rendre compte qu'effectivement, on a des rejets de dossiers sur des fondements qui ne sont pas du tout acceptables. Hein. Et du coup, effectivement, on peut tout à fait penser... que là, le demandeur d'asile, en raison de ses craintes sur son orientation sexuelle, est placé dans le lot commun de tous les demandeurs d'asile et de la volonté de réduire les taux d'acceptation des demandes d'asile, parce que c'est un moyen d'immigration, enfin c'est considéré, alors que ça ne le devrait pas, comme un moyen d'immigration.
Alors je voudrais, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, ma petite Loulou, je voudrais quand même évoquer simplement, dans le cadre donc, de notre sujet d'aujourd'hui, quand même une association qui s'appelle l'ARDIS. Alors je ne sais pas si... Tu en as entendu parler probablement, je ne sais pas si tu connais bien l'ARDIS, mais eux, c'est une association, ARDIS, qui, c'est l'association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et transsexuelles à l'émigration et au séjour. Donc, ils travaillent précisément sur ce sujet-là. L'ARDIS, donc, qui peuvent intervenir éventuellement, aider des personnes qui pourraient trouver auprès d'eux peut-être justement une écoute qui sera différente, même de l'OFPRA ou d'autres structures. Qui seront sensibilisés justement à ces problèmes de stéréotypes, notamment hein, du style est-ce que je dois m'habiller en robe pour faire une demande de...
Non mais c'est fou hein.
C'est ça en fait hein, on est là. Ou alors le test, bon on sait qu'il n'existe plus, mais bon, c'était pas mieux hein, le test phallométrique.
Mais surtout que quand on voit la position du HCR, il faut bien considérer que la crainte, elle doit être pour l'avenir, c'est-à-dire que il faut bien partir du principe qu'une personne qui uniquement en arrivant en Europe fait même son coming out, hein, c'est-à-dire voilà, et sur son mode de vie qu'elle adopte en Europe, c'est sur ce point de vue-là qu'on doit étudier ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, et pas sur la situation dans laquelle elle vivait et dans laquelle elle se situait. Dans son pays d'origine.
Est-ce que les choses avancent, à ton avis ? Est-ce que les condamnations, par exemple, de la Cour européenne, ça fait avancer un petit peu les choses à ce niveau-là ?
Je pense que... Oui, je pense que ça avance. Alors après, c'est sûr que il y aura toujours des condamnations, mais on voit clairement là depuis... alors c'est effectivement des demandes qui augmentent. Donc du coup, ça force hein, quand même les juridictions sont plus souvent saisies, hein, la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de justice de l'Union européenne, et du coup ça les force à se positionner parce qu'il y a plus de cas, donc il y a plus de requêtes. Et du coup, je pense que si des arrêts comme l'arrêt de décembre 2014 arrivent maintenant, oui, c'est que du coup, on est quand même dans une phase de changement où on va vraiment encadrer les pratiques dans les États membres pour qu'on ait des choses beaucoup plus satisfaisantes.
Là, il y a un petit détail qui m'a un petit peu interpellé dans ce que tu disais, c'est que tu citais par exemple la Roumanie qui n'avait pas de loi anti-discrimination. Oui. La Roumanie qui fait maintenant partie de l'Union européenne. Et moi, naïvement, tout à fait naïvement, je pensais que tous les membres de l'Union européenne devaient appliquer, avoir un socle commun de valeurs dont la lutte contre les discriminations faisait partie. Or, ce n'est pas le cas, puisque la Roumanie, visiblement, on cite la Roumanie, mais il y en a d'autres.
Dans le cas, oui, c'est ça. C'était l'espèce exactement, c'était lors dans une Gay Pride à Bucarest. Et on a des personnes qui font l'objet de violences homophobes. Et effectivement, elles veulent déposer plainte, et du coup, pas de plainte prise, pas de poursuite, rien du tout. Néant. Et alors effectivement, la Roumanie est membre de la CEDH, hein, de la Convention européenne des droits de l'homme, elle fait partie de l'Union européenne, donc que ce soit la Charte des droits fondamentaux, interdiction des discriminations, interdiction des atteintes à la dignité humaine, tout ça, que ce soit sur l'un ou l'autre, ça s'applique et la Roumanie doit l'appliquer. Ça, effectivement, c'est le principe. Après, si on a des condamnations, c'est bien qu'on se rend compte que dans les faits, ça ne l'est pas forcément.
Ouais. Oui, on cite la Roumanie, mais on n'a rien contre les Roumains. La Hongrie, notamment, qui a un régime de droite conservatrice, en plus, actuellement.
La Hongrie, alors même s'il n'est pas membre de l'Union européenne, la Géorgie, qui a été récemment condamnée aussi.
Oui, parce que la Cour européenne des droits de l'homme, ça concerne tous les pays européens.
Voilà. Hein.
Incluant la Turquie, d'ailleurs.
Incluant la Turquie.
Oui, parce qu'il y a une partie européenne.
Et la Russie.
Oui. Et la Russie, voilà. Eh bien, notre émission va toucher à son terme. Alors, oui. Peut-être que Lolo, tu voulais rajouter quelque chose, je ne sais pas.
Non.
Bon.
C'est parfait.
C'est parfait.
Ouais.
Bah, ce que j'avais à dire. On aimerait que ce soit mieux encore. Oui. Hein, surtout pour les demandeurs d'asile.
Ah bah oui.
En tout cas, merci Sébastien d'être venu.
Ça a été un plaisir.
Amplement partagé. Voilà. La dernière fois, donc, quand tu étais venu, nous avions évoqué un autre sujet, donc je vais le rappeler vite fait. Ouais. On avait parlé donc des personnes concernées par le VIH et qui étaient renvoyées dans leur pays.
Exact.
Et qui, ça reste très rapidement, parce que l'émission touche à sa fin, mais ça reste encore un sujet brûlant.
Ça reste encore un sujet brûlant, ouais,
c'est le statut des migrants concernés par le VIH.
Par le VIH et qui n'arrivent pas à obtenir une protection. Voilà, on a des décisions positives, on a des décisions négatives, c'est un peu tangent.
Hein. Et là aussi, c'est aussi une histoire, une question quand même, on dira.
C'est une question de contrôle de l'immigration.
De contrôle de l'immigration, ouais.
Au détriment.
Parce que là aussi, il y a de faux prétextes de dire oui, mais dans son pays, il y a un hôpital qui soigne les malades du sida. Le mec, il n'a pas d'argent pour soigner, voilà, il a 5 heures de route à faire, mais c'est pas grave. Il y a un hôpital, un médecin qui s'occupe du sida, c'est bon. Ah, c'est un peu hypocrite quand même.
C'est hypocrite. Voilà, comme on va parler, quel est le stade d'avancée de la maladie. Vous êtes au début, il n'y a pas de souci.
Ça, c'est un sujet qu'on avait évoqué à l'occasion du 1er décembre. Et là, en l'occurrence, à l'occasion du 17 mai, on avait plutôt parlé, des réfugiés pour raison d'homosexualité.
Et sur les réfugiés, si je peux ajouter, ce sera le thème pour la CIMAD. C'est le thème du festival Migrants Scène qui se tiendra à l'automne.
Et là, c'est formidable.
Très bien.
Et merci d'être venu encore une fois. Ça fait un plaisir. Merci. Bernardo, merci d'avoir assuré comme d'habitude. Alors prépare-toi, parce qu'il va falloir lancer le dernier morceau. Dernier morceau que Lolo nous a prévu. J'en profite pour t'embrasser et te dire à bientôt.
Oui, oui, oui.
À la semaine prochaine.
Oui, donc c'est un morceau de trio, le groupe, qui s'appelle La misère d'en face. Donc c'est une chanson qui date de 2013, donc qui est encore plus récente que celle de Lavilliers. Et en gros, il y a plusieurs couplets. Il y a un couplet qui concerne un jeune des favelas, un autre jeune africain et un autre qui suit Sarajevo et qui montre en gros le jeune des favelas, en fait, il cire les chaussures d'un touriste américain et lui, il en a marre d'être chez lui, en fait, de voir l'américain, ça lui donne envie de partir aux États-Unis, donc il va aux États-Unis, le jeune Africain qui débarque à Paris, et le jeune qui fuit Sarajevo parce que toute sa famille est morte voilà, lors du conflit. Et donc c'est l'histoire de ces trois jeunes qui rêvent d'ailleurs parce qu'ils vivent dans des conditions misérables, en temps de guerre ou dans des pauvretés, dans une pauvreté absolument immonde et crasse. Et moi, je tiens juste à ajouter là-dessus que certaines personnes feraient mieux d'arrêter de critiquer les phénomènes d'immigration et d'aider plus à soutenir certains pays qui en ont besoin, car moi, je reste persuadée, quand on est bien chez soi, on y reste.
Voilà, le message est passé. Merci, voilà. Lolo. Music.
Pluriel gay. Pluriel gay.
Rutsa. Ja 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 ja
C'est à vous, allez.
Ce sont des Américains, c'est chez eux que je me casse.
Je me casse.
Ce sont des Américains, c'est chez eux que je me cache. Las Vegas, j'ai tenté ma chance chez ceux d'en face, car de Rio à Caracas, j'ai pas ma place, j'ai pas ma place.
Et peuple d'Occident, réveille-toi, réveille-toi, car au matin, en déjeunant, c'est notre misère que tu vois. Et peuple d'Occident, réveille-toi, réveille-toi, car si je me tire maintenant, c'est pour te prendre ce que je n'ai pas. Et peuple d'Occident, réveille-toi, réveille-toi, c'est ta loi sur l'immigration qui m'empêche de venir chez toi.
Et peuple d'Occident, réveille-toi, réveille-toi, c'est pas Le Pen ou Pasqua qui supprimeront la dette de nos états. Je suis né dans la misère, on m'a beaucoup parlé de vous. Le français n'est pas une langue étrangère par chez nous. Mon père a quitté l'enfer, il vit porte de Saint-Cloud, il y fait des affaires, il nous envoie des sous. Je mets mon futard, je quitte mon Afrique natale. Ici j'ai pas le moral, j'ai pas le moral. Allez, peuple d'Occident, réveille-toi, réveille-toi, car le matin en déjeunant, c'est notre misère que tu vois. Peuple d'Occident, réveille-toi, réveille-toi, et si je me tire maintenant, c'est pour te prendre ce que je n'ai pas. Peuple d'Occident, réveille-toi, réveille-toi.